Bonsoir. Alors, ce soir, on est le 20 décembre. Alors, on va pas faire de politique parce que je pense que depuis maintenant un mois, tout le monde en a ras la frange de cette grève. Et on va parler d'autre chose. Et c'est pour ça que j'ai invité Geneviève Dorman. Bonsoir, Geneviève.
Bonsoir.
Et Marie Delarue. Bonsoir, Marie.
Bonsoir.
Qui sont chacune à sa façon deux personnes qui écrivent très bien et qui s'intéressent à tout autre chose que de la politique,
oh oui.
Qui fait souvent d'ailleurs qu'ils sont beaucoup plus politiques qu'on ne le pense par ce fait même, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas nous casser les pieds, j'espère,
oh,
avec...
Donc...
Non. Et qu'on va pouvoir parler, par exemple, on va pouvoir parler de Noël. Alors, avant de parler de... Oui, on va parler de Noël et je crois que on va commencer par parler du Père Noël. Alors, Geneviève, est-ce que tu crois au Père Noël, toi?
Bah, j'y ai cru, moi. J'y ai cru avec bonheur quand j'étais petite, mais j'avais pas beaucoup de sympathie pour lui, parce qu'une année où j'avais pas été très gentille, cette saloperie de Père Noël m'a apporté quoi comme cadeau? Un dictionnaire. Et Larousse en plus.
Ah, c'est pas bien brillant le dictionnaire de Larousse. Mais il y a de bons dictionnaires, il y a le dictionnaire des francs-maçons qui vient de paraître. Je ne me souviens plus de l'éditeur, mais ça vient de paraître.
Ah, on avait dit qu'on disait pas de cochonnerie
pendant l'Avent. C'est pendant l'Avent, on est propre, on dit pas de cochonnerie. Marie, est-ce que vous croyez Père Noël?
Oui, de temps en temps, je crois comme tout le monde, mais je me souviens plus de ma petite enfance. Comme j'étais la dernière d'une famille nombreuse, j'avais des grandes sœurs qui essayaient de me dissuader de son existence, alors je disais le bonhomme, j'y croyais sans y croire. Quoi, mais...
Alors, comme première question, on va parler un peu des livres. Et quel est le livre que tu lis en ce moment, toi, Geneviève?
Alors, moi, j'ai lu un livre, on va croire que c'est encore la société de connivence, parce que Marie Delarue est là, je la vois pour la première fois, je dois dire. Un livre qui m'a été recommandé par un vieux monsieur que je ne connais pas, mais qui m'a l'air exquis, qui est un académicien qui s'appelle Georges Mathieu.
Qui est un grand peintre.
Et qui est un grand peintre.
C'est un homme exquis, en effet.
Bon, et qui m'avait écrit pour toute autre chose en me recommandant de lire ce livre, qui est signé Marie Delarue, donc, et qui s'appelle Les Aventures de Langue de Blois. Alors déjà, rien que pour ce titre, moi je me serais fait pendre parce que j'adore les calembours.
Et plus ils sont mauvais, meilleurs ils sont. Hein.
Non mais ça c'est excellent, Les Aventures de Langue de Blois. Et alors c'est un livre qui est absolument excellent, ça s'appelle Enquête en sous-titre. Parce que c'est un livre sérieux malgré son titre rieur. Et qui raconte qui est Monsieur Langue, ce qui est quand même, c'est quand même quelqu'un d'assez inconnu. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup mais dont on connaît pas bien la vie. Et là on apprend tout. Depuis son enfance jusqu'à maintenant, et je trouve que c'était quand même quelque chose qui manquait.
Et c'est édifiant pour Noël?
C'est pas particulièrement un livre de Noël, mais c'est un livre qui peut faire rire.
Ah oui.
Et je trouve que par les temps qui courent, la pluie qui tombe, les grèves et tout ça, il faut pas s'en priver.
Bon, alors pendant les grèves, il faut lire Langue de Blois de Marie Delarue. Les Aventures de Langue de Blois?
Les Aventures de Langue de Blois.
C'est chez qui déjà?
C'est chez un éditeur qui s'appelle Monsieur Granchet. Qui m'a pas l'air d'être un éditeur de gauche.
Non, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus un éditeur qu'on peut trouver dans toutes les librairies, hein, parce qu'on a du mal à se le procurer.
Oui, on a du mal à se le procurer parce que je me suis laissé dire que Madame Lang est furieuse de ce livre parce qu'elle le trouve préjudiciable à l'avenir présidentiable de son mari.
Ouh, vous me flattez beaucoup, là.
C'est ce qu'on m'a dit.
C'est vrai.
Voilà.
Eh ben, c'est du joli.
Et qu'elle s'arrange pour qu'on n'en parle pas. Et c'est pourquoi moi j'aime bien parler de ce dont il ne faut pas parler.
Et il y a une chose particulièrement scandaleuse dans ce bouquin. L'une ou l'autre peut répondre à la question.
Je laisse au lecteur le soin de le découvrir. On y découvre beaucoup de choses.
D'accord. Marie, vous lisez quelque chose en ce moment?
Quel est le livre que j'ai lu?
Vous lisez pas, vous allez au cinéma.
Si, je ne lis pas Geneviève Dorman en ce moment.
Elle n'a pas encore écrit. Sinon, ça serait parfaitement. Alors là, on se croirait à la télévision.
Ouais, exactement.
Mais alors, je crois qu'elle se fait tirer l'oreille pour écrire. Elle devrait être en train d'écrire, au lieu d'être à notre émission.
Ah non, tous les alibis sont bons.
Pour ne pas écrire.
C'est la trêve de Noël pour tout le monde, pour les écrivains aussi.
Alors, donc, votre film. Vous n'avez pas de film.
Mais je voulais aller au cinéma ce soir, et puis je suis venue vous voir, donc...
Bon, alors donc, comme on est à la radio, on n'a rien à dire à la radio, puisqu'on n'a rien pu voir, rien pu...
Ah, si, moi j'ai vu un film très très drôle.
Lequel?
Qui s'appelle Le Bonheur est dans le Pré. Ah. Et qui est un film qui est à mourir de... C'est une comédie, hein. C'est pas... Mais c'est un film qui fait beaucoup plus penser qu'il en a l'air. Où on se moque beaucoup de la télévision, et notamment de cette émission qui s'appelle Le Perdu de Vue. Et tout l'argument de ce film est basé sur une émission « Quelqu'un est perdu de vue ». Et c'est très très drôle. Il y a Serrault qui est un acteur absolument admirable.
Remarquable, sûr.
Sabine Azéma qui est fantastique dans le rôle d'une gourde snob. Ah non, je vous assure que ça vaut la peine.
Mais c'est alors, très épicurien. Hein,
c'est très épicurien. C'est un film qui est immoral de A à Z, mais dans la gaudriole et le rire. Et où tout le monde se trouve bien des pires choses, mais c'est très drôle.
Eh bien, j'irai le voir. Ah, en famille ? Pas en famille.
Non, allez-y tout seul avec votre moitié, ça suffit.
D'accord. dites-moi, Marie, la télévision, vous avez vu quelque chose cette semaine ?
Mais vous savez, je suis désolée, mais là,
ben moi, j'ai vu quelque chose de remarquable, d'assez intéressant. Je ne sais pas si Geneviève, tu as la même analyse. J'ai revu Laurence d'Arabie. Je ne l'avais pas vu depuis 30 ans. Alors c'est un film qui est superbe, même à la télé on voit les images, mais c'est un film terriblement anglais.
Ah oui.
Parce qu'on se demande, c'est vraiment une façon de voir les choses, que les Arabes, les tribus bédouines devraient faire une unité, contre qui, pourquoi, on ne le sait pas, et qui devraient surtout avoir pour capitale Damas. Or Damas c'est une ville syrienne, syro-phénicienne, romaine, grecque, tout ce qu'on veut, mais absolument pas arabe, premièrement. Et puis alors deuxièmement, quand on les voit, ces braves bédouins qui veulent faire leur unité pan-arabe et qui disent lutter contre pour la liberté, on voit le résultat que ça a donné actuellement. Hein. Ils sont en plein. Il vaut mieux, je crois, être sujet des Turcs que sujet des Américains comme ils le sont actuellement. Oui. Tu l'as vu ?
Ah ben oui, bien sûr, moi ça je peux pas louper ça. Et en plus, moi je suis câblé en plus. Hein. Alors, là j'échappe à la télévision complètement. Ah c'est une merveille. J'ai vu un film de Jouvet hier soir sur le câble. Non, je crois que c'était sur la 3, ça.
Non, c'était sur le câble.
C'était sur le câble.
Oui, c'était sur le câble.
Ah, c'était formidable, un film qui s'appelle Le Revenant. On a tous les vieux films des années 50 qu'on n'a pas toujours vus. Et on peut échapper complètement à la bêtise de la télévision. Ça vaut le coup, quand même.
Et ça coûte combien, ça ?
C'est pas énorme.
C'est pas très cher.
Quand on considère les services que ça rend.
Ah oui, si on peut, grâce à la télévision, échapper à la télévision, c'est remarquable.
Et quand on aime le cinéma, il y a notamment deux chaînes qui s'appellent Ciné Cinéphile et Ciné Cinéma, c'est un délice.
Bon, mais écoutez, il faut le noter. Et puis alors, Victoria, il faudrait que vous trouviez le prix de ça.
Ça coûte à peu près 300 francs.
Ah, parce que vous êtes câblé.
Bien sûr que je suis câblé,
exactement. Et vous suivez tout ça.
Oui, et puis je peux regarder LCI aussi. Au point de vue politique, c'est un peu moins mal que les autres.
Oui.
Parce qu'on voit des gens, puis on voit des gens qu'on aime bien. Alors, bon, on est content.
Oui.
Et alors, vous avez peut-être vu James Bond, le nouveau James Bond. Est-ce qu'il est sorti, Marie ?
Il sort aujourd'hui ?
Oui.
Vous en avez entendu parler ? Moi, j'ai lu quelque chose de très intéressant dans le Figaro Magazine, parce que je lis même la presse de gauche. Et donc, dans le Figaro Magazine, j'ai vu sur la signature de Patrick Besson...
Oui, ça, c'est extraordinaire.
Que, oui, en fait, ça a été tourné avec pas la complicité, mais avec les moyens de la Royale, qui a donné un aviso et un hélicoptère. Et le nouveau James Bond, qui n'est plus, hélas, Sean Connery, qui s'appelle Brosnan, a fait des déclarations...
On peut pas être le roi Arthur et James Bond.
qui a fait vraiment des déclarations fracassantes contre la France et contre la politique nucléaire française. C'est tout de même pénible et il faut le signaler. Il faut signaler que ces gens-là, finalement, sortent totalement de leur travail, de leur emploi, pour faire de la politique, et c'est ce que nous ne voulons pas faire.
Mais Martin, c'est un Anglais qui dit ça.
C'est un Anglais.
Alors pourquoi va-t-on s'étonner que l'Angleterre crache sur la France ? C'est comme ça depuis toujours.
C'est comme ça depuis toujours. Les premiers donnent des pommes et les Anglais donnent des emmerdements. Et
voilà.
D'ailleurs, Greenpeace n'est qu'un pseudopode des intérêts anglo-saxons qui nous embêtent.
Moi, j'appelle ça les Greenpeaceux.
Ah ben c'est très joli, l'aigle une pisseuse.
Je trouve que ça francise un peu.
C'est vrai, c'est plus joli, ça fait bien de chez nous.
Je voudrais m'excuser ou prier les auditeurs et vous-même de m'excuser si je ne réponds pas à vos questions, mais j'étais très pris ce week-end puisque je suis allée à Blois où les Blésois m'ont réservé un
accueil tout à fait charmant. Oui, parlez des Blésois.
Et lundi, j'étais occupée à mes activités musicales, ce qui fait que je n'ai pas...
À Blois, alors les Blésés, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de travers, Blésé, si je ne me trompe pas. Si dans Marivaux, quelqu'un qui blaise, alors allez-y.
C'était une seconde tentative, celle-ci fut fructueuse, mais la première ne l'était pas, donc j'avais tenté d'aller faire une signature à Blois au début juin, je crois, où M. Lang m'a poursuivi avec un huissier hargneux, etc. Donc j'ai repris le premier train, je suis repartie. Et puis là, des gens courageux m'ont invité, à savoir l'Association Blaisoise des Contribuables. Et comme aucun libraire de Blois n'avait le courage de me recevoir, eh bien on a fait ça dans un hôtel.
Et alors ?
Restaurant, eh bien c'était...
Il y a du monde ?
Ça s'est très bien passé, oui.
Vous avez bien vendu ?
Fort bien vendu.
Donc c'est qu'il y a un public,
Il y a vraiment un public.
Il y a une demande.
Il y a des gens qui sont venus avec leurs livres pour le faire signer, qu'ils avaient lu pendant l'été.
Alors moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas à propos de votre livre. Il faudrait demander à un juriste. Ce livre a été attaqué par Harlem Désir en justice parce que Marie Delarue il parle de malversation faite avant une amnistie et légalement on n'a pas le droit de parler des vilaines choses qu'on a faites quand elles ont été pardonnées par la République. Mais alors, donc ça a coûté cher à l'éditeur. Mais alors comment se fait-il que dans les attendus du procès, les gens qui se sont plaints de ça, c'est-à-dire Harlem Désir, n'aient pas demandé à ce qu'on supprime du livre?
Parce que c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est les espèces sonnantes et trébuchantes. Hein. Je crois que c'est...
Ben oui, parce que moi, si j'attaquais quelqu'un qui ait dit quelque chose de mal sur moi, je demande à ce que ça soit retiré du livre.
Quand on voit la façon dont s'est réglé le problème avec Jean de Boishue...
Avec Jean de Boishue, ça, c'est raconté,
c'est
raconté.
C'est encore un peu extraordinaire. Donc pour un livre qui s'appelait « Banlieue mon amour », qui est paru au printemps dernier également, qui même, je crois, a été couronné, je ne sais plus par quel prix, c'est un livre qui a été publié par Tillinac, à la table ronde, et donc qui a été jugé, bon, on a jugé qu'il y avait des propos racistes, etc., et je crois, du moins s'il en était fait état dans la presse, que SOS Racisme, Harlem Désir ont négocié avec l'auteur et l'éditeur, ils ont négocié le montant de ses droits d'auteur. Oui. Alors c'est quand même, ils ont encaissé les dividendes du racisme.
Ah oui.
Voilà, c'est extraordinaire.
Ce qui prouve que le racisme est quelque chose qui fait
ça rapporte. Vivre.
Ça rapporte, et c'est ça qui est intéressant de savoir. Alors, nous avons les premières questions d'auditeurs, mais qui sont des questions très, très particulières, auxquelles je ne peux pas vraiment répondre, c'est « Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Toulon ?» Alors, nous n'avons pas la liaison actuellement avec Serge de Bekech. Je pense qu'il va nous appeler d'ici la fin de l'émission. Notre question.
On parle de la présidentialité de Jack Lang. Je vous en prie, vous aviez dit que vous ne diriez pas de cochonnerie.
Oui, c'est vrai que c'est une grosse cochonnerie. Ça, peut-être plutôt chanter un petit Noël.
Une autre
question, Victoria?
Non, pour le moment, non.
Ben, on va faire une
pause. Attendez, Pierce Brosnan, James Bond, n'est pas anglais mais irlandais. C'est encore pire. C'est pire qu'il ait dit des méchancetés s'il est irlandais.
Ah oui, ça, on ne peut pas attaquer un Irlandais.
Mais c'est horreur. C'est une horreur, vraiment. On va peut-être faire une première pause musicale, si toutefois la technique se réveille, mais je crois qu'elle est au téléphone depuis une bonne dizaine de minutes. Des petits zigouigoui dans le truc. On peut avoir une première pause musicale?
Oui, envoyez-nous. Thank you.
Bien, on va maintenant parler un petit peu de quelques petites questions de société. Je crois que les gens sont un peu troublés parce que notre Saint-Père le Pape a reçu ce matin, ou cet après-midi, je ne sais plus, Monseigneur Gaillot. Alors Geneviève, qu'est-ce que ça t'inspire, cette audience?
Tout le monde a le droit d'avoir ses pauvres.
Et oui, c'est un drôle de pauvre.
Je trouve que le Saint-Père fait un acte de charité.
Et donc ce
rôle, après tout, son rôle premier, c'est de ramener les brebis égarées.
Il va y parvenir, à ton avis?
Ça va être difficile, mais ça lui sera compté s'il y arrive.
À qui? Au pape?
Au pape.
Et à Monseigneur. Parce qu'il y a plus de bonheur.
Moi, j'ai
dans
horreur,
le ciel
j'ai
pour
horreur de Monseigneur Gaillot.
Une brebis égarée que pour 99.
Oui, mais alors là, ça va chanter sec. Hein,
et alors, pour le rapporter sur ses épaules, surtout.
Non, je déteste cet individu et je suis ravi, moi, qu'il soit plus évêque. Enfin, si, il est toujours évêque.
Il est toujours, oui.
Mais enfin, qu'il n'est plus d'évêché ou nuire.
Je croyais qu'on devait l'envoyer je ne sais où en Afrique.
Mais non, mais il est de Parthénia, de Mauritanie. Bon, on ne va pas l'envoyer là-bas. Bien. Autre question qui est liée aussi à notre Sainte Mère l'Église. Je viens de voir encore une fois que Raymond Barre, maire de Lyon, a interdit une salle à Madame Claire Fontana qui organise des réunions pour lutter pour la vie, contre l'avortement. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça, Raymond Barre, ça a l'air pourtant d'un brave garçon bien conservateur. Pourquoi fait-il ça? Et corollairement, il y a une question de vocabulaire qui est importante. J'entends toujours parler de commando anti-avortement, alors que dans le même temps, on entend parler de, quand il y a 60 ou 80 voitures qui brûlent à Nantes, d'incidents de queue de cortège. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une inversion du vocabulaire, peut-être?
Oui, mais ça, c'est une naïveté de poser la question.
Oui, je suis naïf.
Oui.
Je suis terriblement naïf. Et le pauvre Barre, pourquoi fait-il des choses comme ça?
Peut-être parce qu'il doit penser que ça va lui rapporter des électeurs.
Mais lui aussi est naïf, alors c'est la même naïveté.
Et je crois, mais ça, on le sait qu'il est naïf, Barre. C'est pas la première fois qu'il nous le montre.
Alors,
mais je crois qu'il a peur des troubles publics, tout simplement.
Ah oui, justement, le trouble à l'ordre public. Alors, très intéressant, le trouble à l'ordre public. Quand est-ce qu'il y a trouble à l'ordre public, à ton avis?
Et quand il y a des violences dans la rue.
Quand il y a des violences dans la rue.
Oui. Moi, je suis pas pour les. Moi, je suis contre l'avortement, mais je suis pour la liberté des gens. Et exactement, et c'est pour ça que il m'arrive de défendre le pape, bien que je sois pas une très bonne chrétienne. Parce que si le pape était pour l'avortement, ça serait plus le pape.
Absolument.
Et que moi, je trouve qu'il a raison de donner des directives, et on a la liberté de les suivre ou pas. Et quand j'entends les gens beugler contre le pape, on a l'impression que la France entière est catholique, alors qu'en général, ce ne sont pas des gens très catholiques qui l'attaquent.
Ah, mais c'est ce qui m'a frappé. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire des sacres. Quand il y a eu les sacres par Monseigneur Lefebvre des quatre évêques, toute la France, des bourgeois, francs-maçons, etc., a crié au schisme. C'est la première fois de leur vie qu'ils parlaient du schisme, et c'était terrible. Et ils demandaient, j'ai lu dans Le Monde, sous la plume, je crois, d'Henri Tink, qu'il fallait que Rome fulmine l'excommunication.
Rassurant de penser,
penser
qu'au fond, la France est foncièrement catholique. Parce que moi, ça m'étonne autant que de voir des gens qui ne sont pas apparemment catholiques cesser de travailler pour la Pentecôte ou pour Noël. Ils devraient continuer à travailler.
Mais alors, quand est-ce qu'ils s'arrêteraient? Alors, pour le Yom Kippour,
c'est comme si nous, on s'arrêtait pour le Yom Kippour ou pour une fête arabe ou...
Ah oui, ce serait une France communautaire
donc,
où chacun s'arrêterait.
On continue à vivre dans une France qui, au fond, est monarchiste, qui, au fond, est très catholique, foncièrement, qui ne le sait pas toujours, mais qui l'est.
Et c'est rassurant.
Il l'est, parce que donner une importance pareille au pape, quand on écoute la radio nationale, il n'y a pas de jour qu'on ne l'attaque pas. C'est lui reconnaître quand même une certaine importance.
Et c'est l'hommage du vice à la vertu.
Et oui.
Donc finalement, c'est très bien. Oui.
Allez, on tourne tout bien, parce que c'est...
Ah oui, on va positiver ce soir, c'est pour Noël.
Positivons, voilà.
C'est pour Noël. Alors, j'allais te poser une question qui n'ira pas, parce que justement, dans ma naïveté, donc incident de queue de cortège d'un côté, commando anti-avertement de l'autre, j'allais te demander quel était ton... si tu avais un mot, et la même chose pour Marie Delarue, un mot qui te plaît particulièrement dans cette inversion du vocabulaire, un mot de la désinformation de tous les jours. Par exemple, le terme commando anti-avertement est un mot de désinformation. Un mot qui... Chacun peut avoir son mot fétiche comme ça. Vous n'en avez pas, Marie?
Enfin, j'ai pas un mot, il y a des expressions là qui ces temps-ci qu'on voit sortir partout. Donc on nous dit que cette grève en fait a été un grand élan d'amour entre Français. Alors là, on est en plein dans le dans l'esprit chrétien comme ça. Hein. D'ailleurs que Jacques Lang exploitait fort bien. Alors là, je voyais par exemple qu'il y avait dans Libération d'aujourd'hui un portrait de gréviste d'un cheminot qui explique que cette grève, c'était magnifique. C'était un moment où les gens se sont enfin regardés, parlés, reconnus, et cette grève était une communion. Donc là, on est en plein, dans la religion. Et ces grandes grèves, finalement, enfin, ces manifestations, je trouve que ça ressemble beaucoup au pèlerinage. C'est un petit côté un peu, hein. C'était un peu comme les rogations qui étaient des processions de supplication. Donc,
les rogations sont des processions utiles.
Oui,
c'était pour que le temps soit.
C'était pour attirer la bénédiction divine.
Oui, mais là,
c'était pour attirer la manne de l'État.
Ben oui, d'accord.
Mais on est dans le. C'est le processus, je trouve, qui est identique.
Oui, c'est bien votre côté fondamentalement mal pensant qui s'avère là. Non, oui, je crois. Mais je crois. Oui, non, mais ma question est un peu différente. Je dis, voilà, il y a tous les jours, il sort un nouveau mot de la désinformation. Il y a eu le populisme à un moment donné. Il y a tout mot sert à l'inversion du vocabulaire. Et je vous demandais simplement, moi j'avais noté les incidents de Côte Cortège, m'avaient beaucoup plu, moi, récemment. Je veux savoir si vous, l'une ou l'autre, avez comme ça remarqué une petite nouveauté.
J'ai lu dans c'était le rapport sur les banlieues, l'insécurité, etc. On disait que les jeunes de banlieue, effectivement, qui brûlaient les voitures, etc., se rendaient coupables de petites incivilités.
Ah, ben voilà, il y a petites incivilités. Voilà, et moi je demande aux auditeurs s'ils ne peuvent pas en noter, parce que c'est amusant.
Ne pas essuyer sa bouche avant de boire, c'était une petite incivilité. Brûler une voiture, aujourd'hui, c'est une petite incivilité.
Non, moi, ce qui me fait rire en ce moment, ce que j'entends à la radio, c'est un flash publicitaire qui dit... Pour tout savoir, tapez 3615 culture. Alors ça, je trouve ça irrésistible.
Faudrait peut-être le dire à Douce de Blasi.
Ça va devenir presque un slogan pour rire comme ça.
Oui, mais il y a Paul Lou Sulitzer qui tape 3615 culture tous les soirs.
Oui, mais on l'envoie comme ambassadeur de la culture aussi.
Et voilà, c'est l'ambassadeur de la culture française.
Ouais.
Victoria, vous voulez nous lire des questions?
Il y a un auditeur qui nous dit que vendredi dernier sur TF1, dans un téléfilm avec Bernard Giraudot, on a pu entendre un magnifique « Repentissons-nous ». Alors, il propose comme formule « Alors mes frères, si nous mentissons, repentissons-nous et repartissons du bon pied ».
Ben voilà, repartissons.
Et puis à propos d'une très méchante histoire à propos du Père Noël, l'année dernière pour la fête des mères, la maison Lancel a affiché la phrase suivante: si tu oublies la fête des mères, le Père Noël saura s'en souvenir.
Ben, pourquoi c'est méchant?
Si tu oublies l'appel, mais enfin le Père Noël, il n'est pas là pour régler les comptes, c'est pas le Père Fouettard.
Ah oui, c'est vrai. Donc vous croyez.
Ah ben, il a quand même des verges, si j'ose dire, dans sa haute.
Ah,
c'est pas une contre-pétrie. Hein.
Non, je cherchais. Non, mais
enfin, quand j'étais petite, pour les enfants méchants, il y avait de quoi les fouetter. Je sais pas si ça existe encore, parce que maintenant, il ne faut
les
plus traumatiser les enfants.
Les martinets, bon air de bœuf.
Ah, si, ça existe toujours, les martinets.
Ah non, oui, non, mais c'est...
Faut pas s'en servir.
C'est pour les grandes personnes, maintenant. C'est
ah, non.
Vas-y, pas cochonnerie ce soir, glissons.
Non, ça sent des joyeusetés.
Encore une question d'auditeur, ou plutôt une remarque d'auditeur. Je n'avais pas constaté que les éditoriaux d'Alain Griotret étaient de gauche. Non, bien sûr, mais je plaisantais en disant
c'est
une boutade, que le Figaro Magazine était de gauche. C'est une boutade, mais c'est aussi le fond de ma pensée, remarque.
Non, c'est à cause de Besson qui est communiste que tu as dit ça.
Oui, Besson est communiste, puis les autres. Et les autres. Personne. Persan est assez bizarre.
Persan est très bizarre.
Il est FGDS, non, UDSR.
Je sais pas ce que c'est.
Comme Mitterrand, c'est leur premier parti après la guerre, l'UDSR. Là, il y avait
François-Olivier Gisbert, on ne sait pas le magazine.
Ah non. C'était plutôt les anciens de la cagoule avec les anciens.
J'en ai marre aussi qu'on parle en sigle.
Oui, c'est très compliqué.
Les gens qui n'ont pas le courage de dire avortement et qui disent IVG.
IVG.
Moi, je fais exprès de me tromper entre IVG et TGV. Je dis la pauvre femme qui a eu 3 TGV.
3 TGV. En ce moment, c'est pas facile en plus. L'IVG de 22h30.
C'est insupportable cette manie de parler en lettres.
Bien, alors, une autre question ?
Madame Dorman, dont je partage entièrement l'opinion sur Mgr Gaillot, comme Mgr Gaillot ne paye pas son appartement de la rue du Dragon, il a le droit de se chausser chez Mephisto. Ça, c'est la grosse méchanceté.
Ah, c'est drôle, ça.
Mais
ça
est très joli, Mephisto,
oui. C'est une marque.
Pour les gens qui ont des oignons aux pieds.
C'est très méchant, c'est très méchant.
Ça s'appelle Mephisto.
C'est très joli, ça, à retenir.
Ah, bah, notez-le, il faut le noter.
Vous vous trompez lourdement en pensant que Mgr Gaillot va se faire remonter les bretelles par l'actuel pape. Il est plus que probable qu'il sera nommé cardinal.
Ça, c'est exagéré. Le pire n'est pas toujours sûr. C'est un mauvais esprit diabolique.
Le pire n'est pas toujours sûr. Non, espérons que non.
Puis nos auditeurs reviennent sur ce que vous avez dit déjà. Alors, Monsieur Pelletier doit savoir que le dernier James Bond est comme le Canada Dry. Il en a la couleur, l'odeur et le goût, mais ce n'est pas un James Bond. Signé, un opérateur projectionniste qui passe le film depuis 15 heures. Donc, c'est un technicien, un connaisseur.
Oui. Bon. Mais moi, je trouve ça bien, James Bond, parce que je trouve que ça ressemble au chevalier de la table ronde. Il y a les mêmes choses extraordinaires.
C'est bon, je parlais de... Mais c'est amusant que Sean Connery joue Arthur dans la table ronde version hollywoodienne. C'est très drôle.
Je voudrais passer le coq à l'âne encore une nouvelle fois. Est-ce que tu t'intéresses au football ?
Pas du tout, moi je suis très rugby, mais
complètement,
pas du tout football.
J'avais une question football. Non, parce que tu sais que dans les équipes de football, c'est comme dans les équipes de basket. Dans les clubs, tu n'as droit qu'à une proportion. Par exemple, à Limoges, tu n'as droit qu'à 4 grands Américains dans l'équipe de basket. Sinon, ils doivent être en réserve. Tu avais la même règle pour l'équipe de football. Et la commission de Bruxelles vient d'estimer que cette loi était totalement illégale. Donc, les règles de nationalité sont illégales, c'est Bruxelles qui vient de le dire, et le commissaire concerné a rappelé. Il est clair pour moi qu'il y a à partir de maintenant, les règles de nationalité sont illégales pour les compétitions européennes. Alors, c'est du français vraiment bruxellois. J'attends de ceux concernés qu'ils prennent les mesures nécessaires pour modifier leurs règles afin de se conformer à l'arrêt de la Cour. Celui-ci, en effet, est direct et immédiat. Ça veut dire que maintenant, on ne peut plus jouer au football comme on veut dans les clubs français ou néerlandais.
Est-ce qu'on est obligé déjà de suivre les ordres de Bruxelles ?
Absolument. Ah oui. Il faut savoir qu'au point de vue de la jurisprudence, si tu es attaqué en cour de Luxembourg, la juridiction européenne et en général les traités internationaux ont le pas sur la juridiction française.
Mais je ne suis pas européenne, moi.
Ah oui, mais ça, tu n'y peux rien.
Moi, je suis pour le redoublement des frontières.
Ah oui, mais tu n'y peux rien. Si le gouvernement français veut se plaindre, il sera condamné. Et puis, je ne vois pas qu'il va y
avoir. Alors, c'est bien la peine de se moquer des Belges comme on le fait en France.
Oui, parce qu'on
d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'étonne, moi, dans cette histoire de la Belgique. Pourquoi a-t-on le droit de raconter des histoires belges qui couvrent les malheureux de 36 000 défauts et que la LICRA n'intervient jamais ? Pourquoi ?
Ah ben parce que
c'est pas un racisme, attention. Ça, de
racisme
dire du mal
anti-belge,
des Belges.
Oui, mais c'est pas à raison de la race, s'il n'y a pas de race belge.
C'est bien l'appartenance à une nation.
À une nation. Hein? Est-ce qu'il y a une nation belge ? C'est la question.
Non, mais imagine qu'on raconte le quart des histoires belges sur les Juifs, ce que ça donnerait.
Ah, ça serait épouvantable.
Je trouve que la LICRA fait pas son métier. Là.
Non, mais je crois qu'il faudrait une LICRAB.
Exactement.
Il faudrait une LICRAB contre le racisme, l'antisémitisme et l'anti-belgicisme.
Exactement, contre tous les gens qui tapent sur un pays
sur qui que ce soit. Ouais. Oui, mais ce serait la justice élémentaire. Mais... pas dans ce... Topoline.
On peut rêver un soir d'avant Noël.
Un soir d'avant Noël. Bien, puisque Victorine n'a plus rien à nous dire, je veux passer la parole à Marie Delarue, qui a des questions, comment dirais-je... C'est pas culturel. Elle va nous parler de bonbons. Elle avait une très bonne question. C'est sur les bonbons que je voudrais la première question, parce qu'elle est bonne, la question des bonbons.
Oui, mais c'est toujours comme ça, dans l'amorosité ambiante. Bon, alors, il y a diverses manières de s'en sortir. Et puis, on sait bien que cette période de fin d'année, comme ça, c'était une période de grosse, je vais être un peu vulgaire, pardonnez-moi, d'une période de grosse bouffe, quoi. Alors bon, on fait en fonction de ses moyens. Télérama, qui est une revue catholique, a fait...
Quoi ?
Comment ?
Qui s'affiche comme tel, oui. Propose cette semaine, dans son supplément parisien, un petit dossier sur les bonbons. Paris aime les sucettes, aime les bonbons, etc. Ça peut être étonnant comme ça, mais c'est il y a un phénomène de société, semble-t-il, alors qui est dû à l'amorosité, justement. Et il paraît que les... Alors, on voit d'ailleurs fleurir dans les rues de Paris comme ça des petites boutiques de bonbons. C'est très curieux, ça n'existait pas avant. Bah, ah, il y en a de nouvelles avec des couleurs très fluo, etc.
Avec des carambars,
des roudoudou, des tagada, bon, des malabars, des torpedos, des tout ça. On allait chez la boulangère, chez l'épicière, mais là c'est...
Est-ce qu'il y a toujours les petites boutiques dans les grands jardins de Paris avec les,
ah, ça, je ne
les
sais
petites
pas.
Vieilles dames qui vendent justement des roudoudous, des trucs...
Il y a certainement des
kiosques au but de Chaumont. Moi, je ne connais qu'un jardin bien. Oui. Il y a les kiosques, il y a la crêpière, il y a la barbe à papa, la réviste, tout
les
ça. Gaufres,
oui. Mais ils ne sont pas très bien informés à Télérama. Non. Toujours eu ça.
Oui, mais alors, ils ont fait un sondage parce qu'ils travaillent beaucoup comme ça sur les...
Ah oui, c'est le sondage qui est intéressant.
Racontez-nous le sondage. Donc, on est allé chercher l'Institut Louis Harris. Alors, ils ont découvert que 94% des Français aimaient manger des sucreries.
C'est une grande révélation.
Ce qui est très fort, c'est que 9% pensent qu'elles ne sont plus réservées qu'aux enfants. Alors ça, c'est très important. C'est
un phénomène de société. Le chiffre pertinent,
c'est que, alors là, c'est vraiment tout à fait intéressant. On a découvert que sur ces consommateurs, 74% aimaient les bonbons parce que c'était doux et sucré. Manger des bonbons parce qu'ils étaient doux et sucrés. Les bonbons salés, les bonbons au poivre, effectivement, on ne va pas les acheter chez le marchand de bonbons, on les achète au magasin de
Mais c'est normal, la France vieillit, la France retombe en enfance. Elle retourne à la sucrerie.
Travailler les instituts de sondage.
Et puis surtout, voilà, on voit bien à quoi servent les sondages. Si vous me permettez un commentaire, Marie, c'est que c'est absolument comme les sondages qui viennent de sortir sur par exemple.
Ah oui, en même temps,
les catholiques qui ne croient plus en la non seulement la présence de réelle de Jésus dans l'hostie, mais qui ne croient plus en la divinité de Jésus. On fait un sondage pour dire tantôt une tautologie, une évidence, qu'on achète des bonbons plutôt sucrés et plutôt doux, tantôt des choses horribles. Et l'un et l'autre se répondent. On se sert de l'évidence pour faire passer des choses avec lesquelles on entend modifier l'idée ou la conviction du public. C'est très amusant, hein, ce sondage sur les 74% qui veulent des bonbons sucrés, il faudrait l'afficher dans tout Paris. Nous sommes pour le bonbon sucré.
D'abord, bonbon sucré, c'est un pléonasme.
Mais voilà.
Et nous sommes pour la viande plutôt avec du sang rouge. La viande carnée, les légumes, le pain céréalier.
Je ne sais pas s'il y a deux choses comme ça qu'on peut mettre en rapport, parce que alors on cite après les propos du docteur Paul Carton en 1923 qui disait que c'était à cause de l'usage croissant de trois aliments meurtriers qui sont l'alcool, le sucre et la viande. C'est à cela que nous devons l'empoisonnement de la pensée contemporaine. Ce sont eux qui nous valent ces productions littéraires immorales. Attention, Geneviève Dormat. Ces romans délirants, ces musiques contorsionnées, ces peintures inharmonieuses et ces modes saugrenus.
Alors, est-ce que c'est la faute des cubistes, comme on disait autrefois.
C'est la faute des... Ah ça, je serais plus porté à croire que c'est la faute des cubistes. Mmh. Mais la viande, l'alcool et le sucre, c'est très mauvais pour la création littéraire et la réflexion.
Moi, je sais pas, je bois pas beaucoup d'alcool parce que je suis pompette tout de suite, donc je fais quand même un peu attention.
Et la viande.
Et la viande, j'adore ça. Moi, j'adore un bon gigot, un chapon bien dodu, une noix... Avec, vous savez, comme dans l'histoire du curé de Cucugnan. Alors voilà une histoire de Noël extraordinaire.
Ah, les gélinottes.
C'est formidable. Enfin, le curé qui se dépêche de dire ça.
Relinde.
Il faudrait relire ça. Voilà des choses qu'on devrait entendre à la radio.
Et tu m'en feras 300.
Ah oui. Ah, ça, on en bavait de convoitise à lire cette nouvelle de Monsieur Daudet.
Et justement, est-ce que c'est une nouvelle de mangeur de viande et de buveur d'alcool, ou au contraire, une nouvelle de mangeur de céréales qui a envie pour Noël de beaucoup de viande et de vin?
Mangeurs de céréales, moi j'appelle ça les constipés. Les mangeurs de céréales sont les constipés, la fibre, là, toutes ces pubs abominables où on vous montre des dames à la télé justement en train d'avaler des fibres pour assurer leur transit. Voilà la télévision, bravo, merci.
Transit.
Ça fait rêver, ça, non?
Vous parliez tout à l'heure du Bonheur est dans le Pré, il y a un moment que j'ai trouvé très, tout à fait délicieux.
Pas trop fort, Marie.
Si. Ou cette dame qui est si, si pincée, si coincée, qui revient de sa cure de thalassothérapie, est au restaurant, et le monsieur lui dit, ben, alors bon, des escargots, je ne sais quoi, alors, quelque chose de superbe, elle prend un air très coincé, lui dit, et si on ne mange pas du brocoli bouilli à l'eau de vitesse? On est là pour le plaisir.
Oui, mais alors, justement, puisque vous écrivez toutes les deux de livres, et surtout, Geneviève, est-ce que le fait de manger de la viande a un effet, comme semblait le dire ce scientifique, sur la création littéraire? Est-ce qu'on écrit des nouvelles plus et des romans plus déréglés et plus scandaleux quand on mange de la viande?
Non, je ne crois pas, mais inversement, je crois que quand on écrit vers midi moins le quart, on a tendance à écrire sur la nourriture et à donner des recettes absolument fabuleuses parce qu'on a faim.
C'est de l'hypoglycémie.
Ouais, et ça, c'est pas mal d'avoir faim, mais c'est exactement comme si vous me posiez la question, est-ce qu'on écrit des histoires d'amour quand on est amoureux? Non.
Il faut attendre. Non,
il faut être en manque d'amour pour écrire des histoires d'amour.
Il faut être en manque de viande.
Et personne n'écrit à 2h de l'après-midi, quand vous avez fait un bon repas ou quand vous avez mangé un quart de chapon, ce qui est quand même pas grand-chose par personne.
Un tout petit quart de chapon.
Quand on est gourmand, oui. Bon, là, on n'a pas envie d'écrire, on a envie de roupiller. Il faut
des choses comme elles sont.
Bon, il y a les anges et puis il y a nous.
Alors on va faire une deuxième petite pause musicale sur cette forte parole sur les anges et la musique. C'est repris, c'est rouge. Bien, alors, on va parler un petit peu de la situation politique, ou plutôt de la situation sociale. Je viens d'apprendre par un écho que 150 emplois étaient menacés chez Jacob Delafont. En fait, on ne dira pas, après toutes ces grèves, combien en fait ça coûte, même si l'INSEE, même si la SNCF donne leurs chiffres, on ne le chiffrera jamais. Je crois que ça aura eu quand même pour effet, non seulement d'ennuyer les populations, mais de mettre à mal une bonne partie de notre économie. Mais, d'après vous, Marie Delarue, il n'y a pas que des malheureux, semble-t-il, de cette grève, puisque au sortir de la grève, les gens ont envie de beaucoup de s'amuser, de consommer, semble-t-il.
Ben oui, parce qu'on voit que on n'a jamais tant vendu de voyages comme ça pour ces fêtes de fin d'année. Bon, on voit que les voyagistes, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle.
Oui, c'est les voyagistes.
Voilà, vendent des promenades sur la banquise au pays des Lapons, où on propose aux gens une immersion dans la vie des Ouzbeks, etc. Mais enfin, il y a toujours des
immersion dans la vie des Ouzbeks, vous pouvez nous dire, pour ceux qui ne sont pas spécialistes.
Je sais pas, ça doit être en Ouzbékistan, hein. Il ne doit pas y faire très chaud en ce moment.
L'Ouzbékistan, au mois de décembre, c'est le bon moment.
Ça doit être interactif.
C'est un moment interactif.
Interactif.
Moi, j'ai juste connu la Sibérie au mois de septembre, mais déjà, c'était pas très chaud.
Mais quelle partie de la Sibérie? Mais racontez-nous, vous ne racontez rien.
Ah, bah, c'est le voyage de ma vie. C'était le transsibérien, ça se fait pas 10 fois dans une vie, hein. Mais même au 15 septembre, vous n'êtes pas sûr de revenir par le train. Vous pouvez vous trouver pris par les neiges. Alors, l'Ouzbékistan au mois de décembre, ça doit pas être.
Et à part l'interactivité ouzbek, vous avez autre chose à nous proposer?
Il y a toujours les Antilles qui sont la première destination, et puis la Martinique, la Guadeloupe. Alors, il y a une forte pression sur l'océan Indien, disent les voyagistes. Alors,
et le prix de ces voyages, en gros, c'est quoi?
Ça doit être quelques dizaines de milliers de francs, quand même, oui. Alors, on apprend que Cuba est saturé, que... Bon. Et... Oui,
c'est les gens de la sécurité sociale qui étaient partis à Bali, je crois, à 100 personnes, alors que l'Amérique n'avait envoyé que 7 personnes pour un congrès.
Les Français sont spécialistes, on envoie toujours dans nos congrès sociaux
on ne dit pas la vérité. La sécurité sociale est très riche et elle engraisse grassement les gens qui s'en occupent.
Mais pas seulement Monsieur Blondel. Je crois que la gestion de la sécurité sociale a un taux de rendement qui est très inférieur à ceux d'une assurance privée. Donc la différence du rendement, c'est dans la poche de certaines personnes. Et vous avez peut-être un petit écho à nous raconter.
Oui, parce que Monsieur Blondel, il était vraiment à la pointe des événements là. Il avait besoin d'être sur place et il était logé. On a appris pendant les 3 semaines de grève, là, il était logé dans une très belle suite de l'hôtel Mercure, rue de la Gaîté, dans le 14e arrondissement de Paris. On lui avait fait un prix d'amis parce qu'au lieu de 1200 francs la nuit, c'était 900 francs.
Oh, c'est pas cher.
C'est le quotidien de Paris qui arrivait. Non, c'est pas cher, bien sûr. Bon, même avec les petits déjeuners, quand même, pour un monsieur qui avoue 14 000 francs de revenus par mois, bon, c'est pas mal, il y a beaucoup de gens qui
gagnent. C'est pour ça que la grève s'est arrêtée, il ne pouvait pas rester plus de 14 nuits, c'est tout simple.
Alors, il n'a pas voulu dire au quotidien qui avait payé la facture.
Ah, eh bien, il faut faire l'enquête.
Il faut faire une enquête.
L'enquête reste à faire.
On ne sait pas non plus qui paye ses cigares, ni ses...
Mais Monsieur Levaille était indigné ce matin que le quotidien et Minute aient osé reprocher ça à Monsieur Blondel.
Et pourquoi? Il n'a pas dit
parce que lui, il prend pas des suites à 900 francs, mais à 2800.
Ah oui, non, on prend de gros mots, là.
Non, mais remarquez, je reviens au portrait du gréviste qui est enfin dans Libération aujourd'hui, donc qui est un cheminot responsable syndical CGT. Lui, quand il en a assez de conduire l'Eurostar, il part en vacances. Alors il dit là où il se passe quelque chose, dans les champs de coton du Nicaragua, aux Philippines et au Laos.
C'est pas mal.
C'est vrai que c'est intéressant.
Non mais ce qui compte de noter, c'est que finalement il reste encore quand même un petit peu d'argent dans ce pays pour aller se détendre. Et c'est pas une mauvaise chose, remarquez, mais quand on parle de la grève et de la détresse sociale, il faut pas oublier ça, comme ça il y a quand même deux ou trois Frances qui cohabitent très bien. Alors j'ai un auditeur qui est Philippe de Pavillon-sous-Bois qui me prie de transmettre toute sa sympathie à Madame Dorman, ce que je fais, et puis qui me demande, mais alors il me demande... Je mettrai à Béatrice, qui est une de mes plus belles amies, et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas le droit de dévoiler son identité. Alors, Victoria, d'autres questions.
Qui a dit cette chose horrible pendant que je lisais les messages et que je ne l'écoutais pas? Le curé de Cucugnan, pour le titre de la nouvelle, c'est les trois messes basses.
Les trois messes basses, oui,
mais c'est pas le curé de Cucugnan dont il est question.
Si, c'est bien lui. Les trois messes basses, dont le héros est le curé de Cucugnan.
De Cucugnan. Non, mais le titre de
son petit clergeon qui s'appelle Garrigou, si je me souviens bien.
Oui, non, mais
c'est Drolin, Drindin.
Non, parce que ça fait rire quand on est petit. Donc,
oui, bien sûr.
On dit ça quand on est petit, on se rappelle de Cucugnan.
Et moi, c'est un souvenir de Noël, c'est vrai, parce que
vous étiez à Cucugnan?
Non, j'étais pas Cucugnan.
Mais je crois que ça existe d'ailleurs, Cucugnan.
Je crois que oui.
Oui, mais c'est une autre messe basse dite par Fernandel. C'était plein de musique dans la voix, c'était super. Ah oui, c'était.
Ah non, cher Victoria.
Mais non, je pose la question.
Ou alors je suis prêt à encore une fois me faire appeler imbécile pendant 3 semaines. Le curé de Cucugnan, eh bien, dans les trois messes basses, c'est lui le.
Non, mais il peut être dans les trois messes basses, il peut y avoir une autre nouvelle qui s'appelle le curé de Cucugnan. Je ne crois pas.
Écoutez, c'est pas fondamental, mais je ne crois pas, franchement. On vérifiera ce soir. Vous avez une autre question encore plus embêtante?
Puis c'est parce que nos auditeurs savent tout, c'est pour ça, vous quand même leur dire. Allons.
Nous ne savons
plus. Et là aussi, on vous dit, vous n'avez rien compris. Le sondage est une des formes les plus abouties de la démocratie. D'ailleurs, Dieu devrait être élu.
Mais non, pas besoin de l'élire, puisque nous avons un sondage.
Alors,
c'est ça l'intérêt du sondage. Il remplace l'élection. Oui.
On vient de prononcer un mot.
Dieu.
Démocratie.
Ah bon, pardon.
Et j'aimerais faire profiter d'une trouvaille que j'ai faite hier dans un livre, un très beau livre aussi, qui s'appelle Paul Morand, voyageur du XXe siècle, d'un monsieur Burus. J'ai trouvé ça, et comme j'aime bien Paul Morand, j'ai commencé à lire ce livre. Et j'ai trouvé une citation de Philippe Berthelot, qui était un homme politique sous la Troisième République. Et ça m'a tellement fait rire que je trouve qu'il faut en faire profiter les gens pour Noël. Une définition de la démocratie. C'est le droit pour les poux de dévorer les lions.
Eh ben, c'est du
je trouve ça très joli, quand même.
Ah, c'est Hubert Berthelot, pensez ça, c'est lui qui a inspiré. Berthelot. Pourtant, c'est un excellent démocrate qui a beaucoup inspiré notre politique étrangère pendant plus de 30 ans.
Oui, mais il avait des moments de lucidité.
Eh oui, même Clémenceau a bien terminé. Voilà. Si on lit les livres que Martel lui a consacrés après 1919, Clémenceau pense très bien.
Oui.
C'est l'expérience qui éclaire les. Oui.
J'ai trouvé que c'était une jolie définition de la démocratie.
Répète-la,
c'est le droit pour les lions, de dévorer les lions.
Une autre question, Victoria. Non.
Je suis noyée dans mes papiers, là.
Il y en a trop, il y en a trop.
Le réconfort que m'apportent vos propos vaut tous les médicaments du monde, mais que faut-il faire pour se réjouir avec vous autrement qu'en vous écoutant dans le poste? Donner des raisons de se réjouir.
Vous savez, quand on n'est pas ici, est tellement sinistre que on pleure en ce moment.
Cinq minutes avant, c'était pas fort.
C'était pas gai du tout.
Parce que justement, Geneviève et Marie m'ont appris qu'elles ne croyaient plus au Père Noël ou si peu. Qu'elles avaient écouté un évêque anglican, si j'ai bien compris.
Ah non, il y a un imbécile de pasteur protestant qui a trouvé bon, c'est ce qu'on lit dans les faits divers ces jours-ci, de déclarer en chaire en Angleterre que le Père Noël n'existait pas. Enfin, vous avez dû lire ça dans vos journaux, et tous les petits-enfants pleuraient dans l'église. Les parents se sont plaints. C'est pas un moment, au moment de Noël, de raconter des histoires pareilles. Et le curé, cet imbécile de curé, le lendemain, est remonté en chaire pour dire si, le Père Noël existe.
Et ça, c'est
l'ai rencontré.
C'est un gouvernement d'opinion. On fait un sondage, 90% des enfants. Voilà. Marie,
je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que Geneviève Dorman parlait de Paul Morand, et je sais que sera rendu public, mais je ne sais pas si quelqu'un la publiera, et je ne sais pas s'il y aura encore des lecteurs pour s'intéresser à ça, doit être rendu public en l'an 2000, la correspondance de Paul Morand et de Jacques Chardonne.
Ah, mais ça,
alors moi j'attends envie, ça, oui, mais je ne sais pas si quelqu'un le publiera, je pense quand même.
Pourquoi pas.
Bon, je sais.
Ça doit être assez croquignolé.
Ça doit être très croquignolé.
Parce que pour qu'il ait pris la précaution de le faire publier si tard, c'est-à-dire les gens dont il parle seront morts, ça doit y aller.
C'était quand même deux langues de vipère, tous les deux, mais ça doit être tellement plein d'esprit.
Eh bien, il faudra le lire. Ça va, quand est-ce que va justement cesser le moment où on ne peut pas le faire paraître?
Eh bien, ça doit être le 31 décembre 1999.
Ah ben, c'est donc, on a plus beaucoup de temps à
attendre. C'est bientôt.
Ça fait plus que 3 ans dans les poussières.
Mais pourquoi voulez-vous qu'on ne publie pas?
Non, je ne sais pas. Bah, parce que Chardonne aujourd'hui est tellement devenu infréquentable.
Ah, mais vous avez quand même des gens courageux dans l'édition. Oui, par exemple, la collection bouquins, vous avez des livres vraiment dont on ne pensait pas qu'on les publierait maintenant.
Vous avez un titre en tête?
Je ne veux pas le dire parce que j'ai peur d'attirer des ennuis à ces gens courageux.
En touche du bois, on n'en parle pas.
Non.
C'est vrai que le bouquin, c'est pas mal.
Non, c'est Guy Scheller qui est un monsieur cultivé et courageux.
L'ancien patron du livre de poche.
Voilà.
Qui a fait ce bouquin, qui est une très très bonne...
Et cette collection est formidable parce qu'il y a des titres qui sont quand même pas politiquement corrects, comme on dit, vous voyez.
Oui, parce que vous savez, ça remonte à quelques années, déjà, je ne sais pas, il y a bien 7 ou 8 ans, je crois, la ville de Barbezieux voulait baptiser son nouveau lycée, donc voulait l'appeler Jacques Chardonne, ce qui était quand même assez logique, et puis il y a eu un comité d'enseignants, etc., qui a protesté violemment, donc je crois qu'on ne lui a pas donné, bien sûr, le nom de Jacques Chardonne, et je crois que les noms qui étaient proposés, il y avait Coluche, et je suis en train de chercher le nom.
Ah oui, c'est un saint contemporain, Coluche.
Ce truand qui a été tué alors qu'il était en train de dégoupiller une grenade sous sa banquette, comment s'appelait-il? Mesrine, voilà.
Mérine ou Mesrine?
Je ne sais pas.
C'est bien pour les enfants, ça.
Oui, c'est un nouveau, ça. Je crois qu'il faut aller plus loin que, je sais pas, que le politiquement correct. Je crois qu'on est en train d'établir un nouveau sens commun, un nouveau code moral, justement. Il faudrait en faire le répertoire, savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Actuellement, qu'est-ce qui est bien, Marie?
C'est ce qui donne bonne conscience, je crois. Oh, pardon.
Chacun.
Oui.
Oui. Et qu'est-ce qui est mal? Fumer, c'est mal. Manger, c'est mal.
Nous?
Comment, c'est pas mal, manger ?
Rire, parfois.
Boire, c'est mal.
Rire, c'est suspect.
C'est
rire,
tout à fait suspect. Suspect. Ça, on en a vu ça déjà avec
et
le nom de la rose.
Et qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un suspect ? Un lèche-cul.
Et alors voilà, voilà, on devait en arriver là. C'est pour ça qu'il ne faut pas poser trop de questions parce qu'on a des réponses. Bien.
Je vous poser une question sérieuse.
Oui, alors,
est-ce que la commission de Bruxelles, ou Bruxelles, je ne saurais
Bruxelles,
jamais,
oui.
reconnaît la Belgique en tant que nation ?
Bon, si c'est à moi que les questions sont posées, je réponds. Bien sûr, oui. Il y a combien maintenant ? 16 États qui composent la communauté européenne. Donc, fatalement, elle la reconnaît.
Pourquoi ? Parce que Martin est belge. Je croyais qu'il
je
était
belge,
breton.
Tout à l'heure, vous étiez en train de défendre
il
les
breton,
Belges. Alors,
vous êtes breton,
oui,
Martin
Peignet.
Je croyais qu'on vous appelait tonnerre de Brest.
Non, non, pas du tout. Je suis un seul quart breton. Moi, je suis un mélange.
Ah bon ?
Je suis un beurre.
Vous êtes quoi, vous, Geneviève Dormant ?
Ah ben moi, je suis aussi une beurre, puisque mon grand-père paternel était suisse-allemand et que ma maman est bousseronne.
Suisse-deutsche ? Ben moi, je suis berrichonne. Moitié berrichonne et moitié lorraine.
Et moi, tout bourguignonne.
Voilà quelqu'un qui voilà doit aider bien à la bonne cuisine.
Alors,
une question culturelle. Donc, c'est M. Douste-Blazy qui a expliqué « La culture, c'est une chance ». Pour une civilisation ancrée dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, demande
ah non,
cette auditrice
Ah non, parce que moi je ne traduis pas Douste-Blazy.
Si quelqu'un son gaffio, alors je vais essayer.
Mais,
Bon, la culture c'est une chance. Bon, il a voulu dire la culture est une chance. Alors, pour qui ? Une civilisation ancrée dans l'histoire.
Oui, ça.
Quelles sont les civilisations qui ne seraient pas ancrées dans l'histoire ?
Non, mais ça, c'est parler pour ne rien dire. Oui, c'est ce qu'on appelle la langue de bois.
Ah, ben, je crois que c'est comme les bonbons de tout à l'heure. Les bonbons sont sucrés, et puis les arbres ont des branches et souvent des feuilles. Voilà. C'est du douce, quoi.
Voilà, je suis très contente.
C'est du blasi, même. Alors, continuons.
Dans la rubrique, donc, nos auditeurs savent tout. Il y a bien deux récits, le curé de Cucugnan et les trois messes basses, dans l'enregistrement qu'a fait Fernandel des Lettres de mon Moulin, dans la collection Festival.
Voilà, nos erreurs n'auront pas été inutiles.
Voilà, on a. Eh bien, ça m'étonne quand même.
On a appris quelque chose.
J'ai regardé ce soir quand même.
Hein. Allez, travaillez. Rappelez-moi donc ce que disait Beaumarchais déjà, vous savez.
Oh, allez.
Quelle est la différence entre le mot réactionnaire et le mot conservateur ? Allons débattre.
Alors, pour moi, quelqu'un de réactionnaire, c'est quelqu'un qui réagit.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il n'est pas mort.
Et pour moi, conservateur, c'est quelqu'un qui conserve.
Et moi, conservateur, c'est ce qu'on met dans les cornichons.
Oui, ça c'est du vin, mais on l'en met aussi dans les confitures.
Et ah non.
Le
non.
sucre est un conservateur, le
oui,
sel est un conservateur dans le
jambonneau.
Dans le jambonneau,
oui,
il y a du sel.
Oui,
et
ça,
la
morue,
oui, et dans la morue aussi. Bon, alors, donc, non mais quand même, il faut pas... Ça, c'est que Léon Daudet qui disait réactionnaire tant qu'on voudra, conservateur jamais. Il faut un tout petit peu adoucir ça, parce que quand même, au départ, qu'est-ce que ça veut dire conserver ? Ça veut dire conservare, ça veut dire sauver ensemble. Et ça, c'est pas mal de sauver ensemble. Si on avait de vrais conservateurs, on n'aurait pas besoin de réactionnaires.
Oui, non, oui.
Voilà. Mais comme on n'a pas de conservateur, on a besoin de réactionnaire. Et on
voilà.
réagit. Et voilà.
Je ne comprends pas l'idée générale de votre émission, qui donne l'impression d'être une émission de jeunes retraités. Nous sommes avec des personnes de bonne compagnie, mais tout de même, je n'apprends rien. Dit cet auditeur.
Ah oui, mais c'est parce qu'il est tellement plus cultivé que nous.
Voilà.
Il faut qu'il nous pardonne, nous demandons humblement son pardon.
Voilà, et puis on a voulu faire une émission qui ne parle pas directement tout le temps de politique politicienne, parce que c'est Noël.
Oui,
voilà.
Oui.
Et on préfère parler du temps qu'il fait de Noël, de la messe, du pape, de tout ce qui finalement fait le...
On a envie de dire des légèretés.
Des légèretés sur des sujets graves.
Justement, puisqu'ils voilà une chose qu'ils ont apprise, voulez-vous répéter votre phrase sur la démocratie ? Parce que je n'ai pas eu le temps de la noter, dit cette auditrice.
La démocratie, virgule, c'est le droit pour les poux.
P-O-U-X.
P-O-U-X, de dévorer les lions.
Voilà, c'est fait.
C'était de Monsieur Philippe Berthelot.
C'est ça, c'est Philippe Berthelot.
Qui était un mécène de Giraudoux.
Qui était le successeur un peu de paléologue, finalement.
Oui. Oui, c'était un monsieur, paraît-il, très cultivé, très charmant.
Alors, toujours dans la discussion sur les trois messes basses, Le curé de Cucugnan, mais non, il y a aussi Dom Balaguer.
Dom Balaguer.
C'est dans les trois messes basses, c'est Dom Balaguer, c'est pas le curé de Cucugnan.
Mais ils ont raison, plus ça va, plus ils ont raison.
Je vais le relire ce soir.
Je sens que
le petit Clergeon s'appelle bien Garrigou.
Oui, ah oui, ça je suis sûre.
On va continuer, on va pas parler.
Geneviève Dorman, qui est l'idole de mon fils qui a 29 ans, est la seule raison pour moi d'écouter Ruquier.
Oui.
Bon rétablissement à Serge de Bekech. Alors je retransmets par ailleurs.
Merci.
On lui transmettra.
Vous voyez, alors, si vous la seule, bon.
Que tu vas chez Ruquier ?
Oui.
Il est marrant ?
Il est très sympa.
Ah.
Et comme je suis la seule personne pas de gauche, je dois être un peu leur caution.
C'est pour ça.
Et je peux dire ce que je veux.
Pour le numéro,
ah, tu sers de jamais à Ruquier ?
Attention, Martin Delphine. Attention.
Bon.
Moi, je voulais poser une question à Martin Pelletier, justement.
On va reprendre un peu les questions.
Il a eu une phrase superbe. J'ai entendu ça dans sa bouche. Et vous parlez de la démocratie, qui est le droit pour l'époux de dévorer les lions. Martin a dit, la force des institutions, c'est la lâcheté des individus.
J'ai dit ça ce matin, moi.
Oui, je ne sais pas quand, je ne sais plus quand, mais je voudrais bien que vous expliquiez.
Mais non, ça, c'est une boutade, de mauvais goût. Il faut un peu de lâcheté, parce que sinon... ou disons, d'assentiment aux réalités et aux ordres, c'est pas la lâcheté.
Non,
bien sûr, mais les institutions n'ont pas besoin du courage des individus, grâce à Dieu. Pas toujours. Il faut quelques citoyens courageux, mais il n'en faut pas des millions.
Peut-être que le courage des individus n'a pas besoin des institutions.
Non
aussi.
Plus. Et inversement, virgule. Alors,
ça, c'est très réel.
Il y a d'un côté, il y a Rome, et d'un autre côté, il y a les Chouans, et tout ça marche très bien. Oui. Mais alors, quand il n'y a ni les institutions, ni le courage, alors ça donne le pari de démodéré. Voilà.
Et n'oubliez pas les Vendéens, parce que les gens font la confusion perpétuellement. Les Vendéens, c'est sous la Loire, les Chouans, c'est au-dessus.
Absolument, personne ne dit le contraire. C'est un peu comme Dom Balaguer et le curé de Cucugnan.
À chaque fois, on dit de Philippe de Villiers qu'il est Chouan. Non, il est Vendéen.
Nuance. Alors nuance. Là, ça se précise tout à fait. Le curé de Cucugnan, celui qui menace tous les paroissiens de l'enfer, le prêtre trop gourmand bâcle les trois messes basses, c'est Dom Balaguer, c'est bien ça, chapelain de trinquelage.
Voilà, c'est exactement ça.
Pourquoi
on sait tout.
Pourquoi dites-vous trop gourmand? On n'est jamais trop gourmand. Non. Je crois que Dieu aime les gourmands, sans quoi il n'aurait pas fait les oies, les chapons,
les jolies notes,
les faisans, les pans.
Les truffes. Il n'aime pas Dieu.
Quand on pense que Dieu aime les truffes.
Les truites et tout ça. Mais cela dit, oui, la preuve, c'est qu'il est miséricordieux. Au bout de 300 messes basses, Dom Balaguer sera pardonné.
De 3 messes basses, pas 300.
Il en dira 300. Bon, allez, on arrête avec cette histoire de Cucugnan et de Dom Balaguer. Et Marie revient sur ces questions... périculturel, on va faire du douce plaisir encore un petit peu pour faire plaisir à notre auditeur qui ne voit pas le sens général de cette émission.
Tapez 36 15.
Culture, oui, tiens, à ce propos, il y a une exposition en ce moment au musée d'art moderne de la ville de Paris qui est, paraît-il, une exposition manifeste. Alors bon, c'est quelque chose d'un peu particulier. Ce sont des, enfin, particuliers, oui, c'est le cas de le dire, ce sont des collectionneurs privés comme ça qui ont prêté leurs œuvres, et puis alors, curieusement, ça correspond encore une fois de plus tout à fait à... On est dans l'art officiel. Alors on a éliminé les collectionneurs qui collectionnaient des gens qui ne sont pas agréés par nos ministres.
Par les institutions.
Alors d'ailleurs, on ne trouve pas un artiste dont on parlait tout à l'heure, qui est Georges Mathieu, par exemple.
Ah oui.
Voilà, on ne trouve pas... Je crois bien qu'il n'est pas vraiment politiquement correct. Hein, mais en revanche, on trouve bien sûr Armand, Boltanski, Reynaud, Doroni, Buren, etc. Voilà, une fois de plus.
Alors, j'ai deux questions personnelles. Une question même à Geneviève. J'aime beaucoup Geneviève Norman et je voudrais savoir ce qu'elle a pu faire pour passer sur France Inter dans une émission gauchiste. Ah ah. Qu'est-ce que tu as fait pour...
Eh bien, je vais vous dire, c'est simple, on m'a invité. Et moi, ça m'a amusé d'y aller, parce qu'on m'a assuré que je pourrais dire ce que je voudrais. Et je dois dire qu'on ne m'a jamais censuré.
Et ça se passe vraiment comme ça.
Ah bah oui.
Ah bah voilà. Nos auditeurs sont rassurés.
Alors de temps en temps, ils attrapent des hoquets. Moi, j'en remets un petit peu. Mais ce Laurent Ruquier, qui est un jeune homme très gentil, et je crois qu'il aime bien ça, fait rebondir ses idées.
Et ça l'amuse finalement.
Ça doit l'amuser, ça doit l'amuser.
Je veux dire pas de bêtises monde, mais
politiquement
incorrect comme ça, c'est très amusant à regarder effectivement. Alors il y a une boutade de mauvais goût, mais je la dis quand même parce que j'aime bien le mauvais goût. Vous avez raison, Guy Scheler est très courageux, il a même été marié avec Françoise Sagan.
Mais oui, c'est vrai.
C'est vrai. Mais est-ce que c'est très courageux?
Non, c'est pas très gentil de dire ça, mais c'est un fabuleux éditeur.
Oui, en plus. Et alors, toujours dans le mauvais goût, dans les milieux culturels, on donne le surnom de choupette à M. Douste-Blazy, car il remonte toujours une mèche qu'il a dans la figure. Je ne savais pas qu'on l'appelait choupette.
On appelle aussi Douste-Blazer, non?
Oui, Douste-Blazer, mais choupette, c'est mignon. Hein, Le crétin des Pyrénées s'appelle choupette. Alors voilà.
Sur cette... C'est un joli titre de nouvelle.
On va faire une dernière pause musicale.
Voyez un cordique.
Vous allez encore nous poser deux, trois questions là.
Madame Dorman, pouvez-vous rappeler qui est Jacques Chardon?
Jacques Chardon était un écrivain qui a eu une heure de succès importante dans les années 30.
Et un peu par la suite.
Et oui, mais enfin, ça a été vraiment.
Avec Alam, son premier.
Voilà, avec Pierre Benoît, avec toute cette génération d'écrivains. Et. Je l'ai connu vieux monsieur, moi, chez Kléber et Dins.
Oui.
C'était un ami de Kléber et Dins. Et c'était un personnage extraordinaire, moi, qui m'impressionnait beaucoup, qui était gay, qui était vraiment formidable.
Et qui était extrêmement, disert aussi.
Ah oui, qui parlait beaucoup, et qui était vraiment charmant.
Et ces derniers livres sont pas les plus vilains. L'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. Les choses comme ça.
J'ai pas lu grand-chose. Je crois que c'est lui qui a écrit Le Déjeuner de Sousserac.
Ah non, ça c'est Pierre Benoît.
Non, c'est Pierre Benoît. Voilà.
Lui, c'est le bonheur de Barbezieux.
Oui. D'ailleurs, c'était pas son vrai nom, Chardon.
Non,
c'était...
il s'appelait
Boutello. Ouais. Et je crois qu'il avait à voir avec Limoges. Il était un.
Oui, il avait épousé.
C'était un héritier d'une fabrique de Limoges.
Du Havilland. Sa mère était une Havilland et lui, son père était dans le cognac, sa mère dans la porcelaine.
C'est formidable pour un écrivain. Qu'est-ce qu'on est tranquille.
Et puis alors, c'est agréable.
On n'est pas obligé d'écrire dans les journaux, c'est bien.
Non, mais il était éditeur, il a tout ça, il était chez Stock.
Ouais.
Et comme il prenait son train pour venir de la frette, puisqu'il évitait la frette, il écrivait exactement le temps que mettait le train. Alors, s'il avait vécu ces derniers temps, il aurait fait des très très grands livres, de tout petits au contraire.
Et il avait la réputation de beaucoup aimer les dames.
Oui, je crois. Pourtant, tous
ces livres et tous ces grands livres sont sur le mariage et sur l'amour dans le mariage.
Ah ben oui, mais ce sont les meilleurs qui disent ça.
Bon, ben écoutez, je vous laisse la responsabilité.
Une citation, pendant qu'on est dans les citations, de Flaubert. Le langage humain est comme un chaudron fêlé sur lequel on bat la mesure pour faire danser les ours, alors que nous voudrions émouvoir les étoiles. C'est pas beau, ça?
C'est superbe.
C'est Monsieur Flaubert.
C'est un,
bon.
C'est pas très bon, hein, Flaubert.
Oh, c'est du Flaubert, monsieur.
Oui, c'est du Flaubert.
C'est beau.
Bon, alors vous vous faites aussi rappeler à l'ordre à propos de la citation sur la démocratie, parce qu'on nous dit que c'est de Clémenceau.
Ah, bah, alors moi je l'ai vu attribué à.
Et que Clémenceau a dit exactement: la démocratie est le pouvoir pour les poux de manger les lions et d'élire les ânes. Ajoute.
Ah, c'est pas mal. C'est ah, bah, très bien.
Vous savez, à ce moment-là, on ne sait pas à qui l'attribuer, parce qu'on a attribué tellement de choses à ces gens-là qui avaient beaucoup d'esprit et puis beaucoup d'habitude.
Oui, il a dû piquer ça à Berthelot, à mon avis, ça ne m'étonne pas.
C'est pour ça, ils sont noirs, là. Et
puis, voilà, si c'est dans Martin, on ne sait pas qui l'a écrit, finalement. Allez-y, continuez.
Un admirateur de Geneviève Dorman regrette qu'elle s'auto-censure lorsqu'elle passe sur France Inter.
Alors, si tu aurais deux langages,
alors qu'est-ce que vous nous faites?
Mais ils ne se rendent pas compte, moi j'ai pas envie de finir dans un cul de basse fosse.
Ah, voilà.
On se fait fourrer en prison, j'ai pas envie d'aller en prison.
C'est ça qu'il faudrait. Dis-le bien aux
étudiants. On n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de rien écrire, sans quoi on vous traîne. Et moi je suis fragile. Bon, après tout, je suis une femme et je suis fragile. Et en plus, j'ai vu l'autre jour sur le câble un film qui se passait dans une prison de femmes. C'était une horreur. Si encore on me mettait en prison avec des hommes, je veux bien. Mais alors, une prison de femmes, non. Alors, je m'auto-censure comme tous les journalistes. Parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense. Mais on n'en pense pas moins. On en pense encore davantage, à mon avis. Parce que plus on vous empêche de parler, et plus ça... Oui.
C'est à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, vous mélangez exprès TGV et IGV. Mais vous pourriez aussi bien dire VGE, puisque c'est lui, de lui que l'initiative est partie.
PSU et PMU, surtout.
Oui, mais en être à sa cinquième VGE, c'est très pénible.
Ah oui, alors là, ça crée une confusion. Les gens vous regardent, ils comprennent pas ce qu'on dit. Vous avez pris l'IVG de 10h37.
8h47.
À propos de l'avortement, j'ai mon ami Montaldo qui un jour a dit une chose très très drôle quand même. C'était au moment où des tas de dames très élégantes affichaient leurs avortements, s'en vantaient. Et Montaldo dit: mais elles ont bien fait d'avorter. Imaginez qu'elles se soient reproduites.
C'est horrible et odieux, je ne veux pas entendre ça. Marie, vous allez nous poser une question culturelle. Non? Vous n'avez pas une question à nous poser, là?
Moi, j'ai une question. Non, ce n'était pas une question culturelle, je voulais simplement...
Mais allez-y, ce n'est pas culturel.
Faire une mise en garde aux auditeurs. J'ai trouvé ça encore extraordinaire, puisqu'on en ne cesse de nous parler comme ça, de cette période sinistre, des restrictions, etc. Et puis j'ai découvert comme ça dans la presse, je crois bien que c'est dans le Figaro d'aujourd'hui, qu'il est déjà trop tard pour réserver son réveillon de Saint-Sylvestre 1999. Alors si vous vouliez aller dîner à la Tour d'Argent, si vous voulez, ben voilà, vous ne pourrez pas franchir le seuil du nouveau millénaire en réveillonnant, c'est déjà complet partout.
Ah, c'est la grande peur de l'an 2000, c'est de ne pas avoir assez de caviar.
Il y a même une personne qui a réservé au Ritz, s'il vous plaît, depuis 1986.
Ah, c'est très bien le Ritz.
Le Ritz,
oui. On m'a servi des tripes au petit déjeuner un jour.
Ah, au Ritz?
Oui, j'étais invité par quelqu'un, parce que c'est la mode aussi d'inviter les gens au petit déjeuner, de vous faire lever à 7h du matin pour discuter de choses sérieuses. Et pour embêter ce monsieur qui m'avait fait lever de bonne heure, j'ai demandé des tripes d'abord parce que j'aime ça. Et que le matin, il faut se caler, parce que sans quoi la vie est trop triste. Eh bien, je les ai obtenus.
Ah bon, ben il faut signaler donc
alors une bonne raison. Et ça m'avait donné après l'idée de faire un article sur les hôtels de luxe où on pouvait encore faire des caprices. Et là, croyez-moi, il y en a plus beaucoup.
Parce que t'as essayé dans d'autres maisons?
Ah ben j'ai fait tous les grands hôtels de Paris pour voir.
Des tripes.
Eh ben oui, eh ben non. Mais j'ai eu des rognons quand même à celui qui est Place à Concorde, là, au Crillon. On peut avoir des rognons à 8h du matin.
À la commandanture.
Oui. Moi, je suis pour la défense de la gourmandise.
Et des tripes, en particulier.
Ah, les tripes le matin, c'est fabuleux.
Avec un petit peu de vin blanc.
Avec un tout petit peu de vin blanc, bien glacé. ça vous met en selle pour la journée, c'est une merveille. Ah, c'est autre chose que ce qu'il y a sur le transit, là, vos fibres et vos machins, là.
Victoria.
On nous donne des précisions sur le Père Noël. J'ai connu un couple de fabricants de martinets qui, faute de clientèle, fournit maintenant les sex shops.
Ben voilà.
Mais ce qu'on disait, une reconversion.
Oh, ben voilà. Alors
ce que vient... Oh non, je ne dis pas ça.
Quoi ?
Allez. Ben non,
bon, alors on le lit. Ce que vient de dire Madame Dorman sur les radios officielles me révolte. Comme s'il avait... Bon, quand les Français pourront-ils s'exprimer librement ? Mais on voudrait bien, nous.
Mais c'est pas possible.
Mais la facture courant. Est très lourde, hein, alors on peut pas s'exprimer deux fois dans ces
Même
cas-là.
Ce soir, je nous suis surpris à plusieurs reprises en état de censure, d'auto-censure.
Mmh.
Parce que si on avait eu les nerfs qui avaient lâché, vous auriez entendu ce que c'était qu'une radio libre.
Oui, exactement. Il n'y a pas de radio ici, libre. Il faut bien
ici,
savoir que
non,
même
elle est
ici,
relativement libre.
Oui,
mais relativement
elle est relativement libre.
On se tient.
Mais de temps en temps, j'ai croisé le regard de Monsieur Pelletier et je vous assure que les anges volaient bas.
On est les auto-censurés permanents.
Voilà.
Et je crois que c'est le cas d'un plus grand nombre de plus en plus grands Français.
Ça, on va finir au Prozac et au Temesta comme tout le monde.
Non,
ça
non, non, jamais.
Au tripou.
On peut très bien s'auto-censurer voilà. Au tripou.
Oui. Vive le tripou.
Vive le tripou.
De Noël.
Le tripou de Noël. Tripou contre tripou. Non ? Pas de questions, Marie.
Non.
Non, ouais, ben, moi je vais en poser.
Mais moi je vais vous en poser une. Pour
vous,
bon,
alors, Victoria,
pour Monsieur Pelletier, c'est écrit. Sait-on si Monsieur Jean-Marie Le Pen a reçu une réponse à la lettre adressée au président du CSA concernant le traitement réservé au front par les médias ?
Oui. Moi, je peux répondre oui, il a reçu une lettre. Enfin, le président du CSA, Hervé Bouge, l'a assuré qu'il avait pris bonne note de ce qu'il avait reçu comme remarque de la part de Jean-Marie Le Pen, qu'il jugeait fondé ses remarques et qu'il allait faire pour le mieux pour étudier un nouveau système de répartition. Voilà. En attendant la Saint-Glinglin, normalement, nous sommes parés. Donc c'est une façon polie de dire les choses, donc en fait, Hervé Bouge a donné acte du déséquilibre permanent dont souffrent les médias, mais il n'a évidemment pas donné de solution. D'ailleurs il ne peut pas en donner puisque c'est un organisme consultatif. Mais il ne fait pas non plus tout pour faire pression. Parce qu'il y a tout de même des moyens de pression qui sont assez... d'abord une remontrance, puis une admonestation, et puis une patati patata, mais généralement ça ne va pas bien. Hein, voilà.
Très bien. C'est une auditrice connaisseuse qui émet des doutes sur la qualité des tripes que vous avez mangées.
Ah, elles étaient délicieuses.
Parce qu'elle dit, mangez les tripes le matin à 7h, il faut des heures de cuisson.
Non, parce
Donc,
que...
Donc il y a là quelque chose qui ne va pas.
Non, parce que la tripe cuite se conserve très très bien.
Voilà.
Et moi j'en ai mangé à Lire, qui est quand même le Vatican de la tripe, et elles étaient cuites depuis
la tripe,
c'était pas du congelé, décongelé.
Non, la tripe c'est exactement comme le cassoulet et la choucroute, ça se réchauffe.
Ah non, la choucroute, non, ça non.
Choucroute.
Ah non, moi je suis pas d'accord là-dessus.
Sur la choucroute ?
Non, je veux dire que la choucroute réchauffée, c'est pas de la choucroute fraîche, hein, c'est pas de la choucroute qu'on vient de faire cuire.
Non,
ça n'a rien à voir.
Ça peut être très bon.
Oui, mais c'est pas pareil.
Tandis si on prend le soin de changer la garniture.
Sauf que même la tripe a intérêt à attendre.
Ah oui, la tripe attend toujours. Bien. Victoria.
C'est une opinion originale. Cessez de critiquer les grèves que le monde entier nous envie.
Ben tiens,
c'est drôle ça.
Geneviève, qu'est-ce que tu as pensé des grèves hein?
Bah moi j'ai circulé à bicyclette comme d'habitude. Parce que ça fait 20 ans que je roule à bicyclette dans Paris. Donc ça m'a pas beaucoup changé de ce côté-là. Et puis j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose. Moi j'aime bien un petit peu. Je suis quelqu'un de désordonné qui aime l'ordre, alors je m'y retrouve mal de temps en temps. Mais j'aimais bien un peu ce désordre. Mais ça dit, c'est insupportable pour les gens qui sont obligés de venir de loin. Et puis c'est surtout le motif de la grève, moi, que je trouve insupportable. Parce que ça va mettre des gens au chômage, enfin c'est vraiment bête.
c'est bête et c'était ouais. tout de même quand ouais. on n'a pas de vélo ou qu'on doit aller très loin, parce que quand même faire 20 km en vélo c'est long.
On devrait toujours avoir un vélo.
Et oui, tu en parles à ton aise, mais quand tu as 4 enfants, il faut 6 vélos dans
mais
une famille.
Mais moi aussi j'ai 4 enfants.
Oui, mais elles sont grandes. Hein,
oui, elles sont grandes, elles sont grandes.
Tu as repiqué les vélos quand même.
Moi j'ai marché, traversé Paris à pied, oui. non, descendant du but de Chaumont, c'était dans le bon sens.
On marche beaucoup moins
voilà.
que les gens du début du siècle.
Ah oui.
Hein, parce que quand Apollinaire, ses copains, tout ça, ils traversaient Paris toutes les nuits.
C'est vrai qu'on a un peu marché, ça c'était le bon côté. Oui. Mais alors on a marché dans une telle
bagaille
de saleté que c'était pénible hein, quand même.
Oui. Victoria. J'ai une question pour Madame Delarue. Le 18 août dernier, les chroniqueurs de la presse ont imaginé qu'avant de dénicher le Mont Beuvray, Jack, doit-on dire Jack ou Jacques?
Ben c'est Jack, normalement.
Ah, voilà, donc je me fais taper.
En hommage à l'aviation anglaise. Qui
voilà. Je me fais taper sur les doigts parce que j'ai dit Jack.
Moi,
on m'a dit que c'est un prénom français.
Il faut tout prononcer à la française, y compris M. Clinton.
Oui,
Clinton.
Mais
M. et Mme Clinton sont à Paris. Point.
Oui, mais lui, c'est un Anglais, Jack.
D'ailleurs, il le dit. Hein,
Alors, qu'est-ce qu'il dit sur lui, là? Non, mais dites-nous.
Il dit appelez-moi Jack.
Appelez-moi Jack, c'est lui qui dit appelez-moi Jack.
Très bien.
Donc j'avais raison, c'est très bien, j'ai toujours raison.
Continuez votre question, parce que sinon on va pas s'y retrouver.
Avant de dénicher le Mont Beuvray, Jacques Lang avait tenté de négocier la tombe de Mitterrand sur les hauts lieux de ce monde, à commencer par les pyramides, et pour finir à Jérusalem. Revenu désolé à l'Élysée en disant « intéressant mais vraiment hors de prix, la somme exigée est prohibitive ». Donc le président Mitterrand aurait écarté la difficulté d'un revers de main. Mais attention, ce n'est que pour 3 jours, ce texte dans Chrétien Magazine du mois de novembre, qu'est-ce que c'est? Le texte un peu raccourci. Il a vraiment été cherché.
Alors ça, je ne sais pas, j'ignorais ça, mais c'est pas impossible du tout. Et j'avoue que si cet auditeur a des précisions à donner sur le sujet, je suis preneur.
Mais non, parce que vous êtes preneur. Il faut aussi que le livre de Marie Delarue n'est pas un livre de ragots léger.
Oui, parce qu'il ne faut pas
comprendre. C'est un livre de contes. C'est un livre de contes et sans B.
Parce que ça serait trop beau. Je crains que ce ne soit quand même une plaisanterie, un canular.
Oui, je crains, là.
Tandis que le livre de Topoline, au contraire, c'est extrêmement, c'est même plus que rigoureux, c'est aride, on s'ennuie à le lire. Avec les contes, c'est vrai, au contraire, on voit tout l'envers du décor. Voilà, grâce à ça. Alors.
Est-ce que je vous dis, oh oui, parce qu'on n'arrive pas, je vais vous faire tous les compliments.
Non, il faut d'abord identifier la station. Non,
alors,
je ne sais pas.
J'ai oublié. Alors, j'oublierai à 7h30 maintenant.
Bon, alors d'accord.
Je rattraperai à 7h30.
Si, comment pouvoir fumer une cigarette.
Non, pas avant 7h30. Alors, on nous donne d'abord des précisions sur le câble. Le câble coûte 130 francs par mois. Et si on veut en plus ciné-cinéphile et ciné-ciné, je ne sais pas comment, c'est 195 francs. Donc c'est bien ça, on en a à peu près pour 300 francs par mois. Vraiment, ça vaut la peine. Bon, et puis...
Alors
je suis perdue dans mes papiers.
Mais oui, vous avez un
Mais non, mais j'ai beaucoup, mais c'est pas ça. J'ai beaucoup d'approbation, de...
Bon, je comprends bien.
Comme gourmandises, pourriez-vous parler gâteau, entremets, glace et chocolat? Cela nous changerait des gourmandises.
On a parlé des roux-doudous et des malabars, on n'avait pas eu le temps d'aller.
Moi, je suis pas très...
Les gourmandises carnées, ça y est,
je me suis... C'est pas sucre. Et vous, Marie?
Je suis pas très gâteau.
Elle est bonbon et petite.
Il y a le puits d'amour qui est une vraie merveille.
Ah, ça, oui. Oh, c'est oh, bon d'amour.
Et chez Storer aussi, rue Montorgueil.
Oh, le Paris-Brest, c'est pas mal.
Odieusement snob, toutes les deux. Il n'y a rien de mieux qu'un bon 4K.
C'est un péché tellement c'est bon.
Un Queen Yaman.
Le Queen Yaman, c'est bon aussi, mais alors, on prend tout ça dans les hanches rapidement.
Moi, j'aime bien les galettes des rois aussi, la frangipane. Ça, c'est pas mal.
Le Clinton est un vin de l'Ardèche fait à partir de raisins, tombé à l'état sauvage. Ah, en fait, c'est une piquette de l'Ardèche.
C'est très bien, ça, drôle, il faut garder ça.
Ah oui, ça faut garder ça.
Oui, vous êtes... Non.
Je veux vous dire les compliments.
D'ailleurs, parce que vous savez qu'à propos des accents qu'on peut prendre, il paraît que c'est raciste de prononcer un nom étranger avec l'accent étranger. Alors moi, je veux pas qu'on me dise que je sois raciste. Maintenant, monsieur, il y a le philosophe, là, moi, je l'appelle Finkielkraut. Je prononce tout à la française. Hein. Je dis les opéras de Vanier.
Oui.
Bon, voilà.
Vanier,
Francis, voilà. Vanier, oui. Francisons un peu les choses.
C'est vrai, c'est Vanier, c'est très bien.
Ah oui, oui.
Ah oui.
Richard Vanier, c'était très bien.
Ouais. Un très bon. Ben, tenez, je voudrais faire une petite annonce. Je viens de recevoir les cahiers de BD Sup, magazine de l'image et de la BD, pour le combien troisième trimestre 95. Ça s'appelle Tintin et les antifachos, et c'est passionnant. Je veux dire que j'ai commencé à le feuilleter. Et je voudrais faire un petit peu de, comment dirais-je, de retape pour cela. Alors c'est publié par les amis de Hergé, je crois, Chemin du Fait, numéro 7, B7400 Soigny, c'est en Belgique. Téléphone 067 33 38 61. Donc B7400 Soigny, les amis de Hergé.
Mais est-ce qu'on le trouve en France aussi ?
Ben, je ne sais pas. Justement, je viens de le recevoir. C'est très amusant. Alors pour ne pas être politiquement correct, ça n'est pas politiquement correct. Si on aime Tintin, on est très amusé.
Ah oui.
Si on s'intéresse à Léon de Grêle, on est très amusé aussi. Enfin, on s'amuse beaucoup, quoi. Donc je recommande à ceux de nos lecteurs que ça pourrait intéresser. Je vous ai coupé, Victoria. Allez, je vous rends la parole.
Geneviève Dorman est tout à fait dans le ton pour les tripes au petit déjeuner, comme cela se pratique en Turquie. Au lieu de soupe à l'oignon, on absorbe là-bas des tripes et du lait. Avis aux amateurs.
Voilà, turc, à présent.
Alors, il y a aussi en Roumanie, j'ai mangé de la soupe de tripes aigre avec des espèces de machins verts qui surnagent. Il faut quand même être costaud. Hein. Le matin, ça me semble...
Non, mais moi, je parlais de la tripe française.
Tu as la tripe française.
Voilà. J'ai la tripe française.
Et puis, une auditrice qui doit avoir aussi la tripe française vous demande où elle peut vous écrire. Parce qu'elle voudrait vous écrire, alors...
Mais à Radio Courtoisie.
Qui transmettra.
Très bien.
Donc c'est 61 boulevard Murat.
75-016, Paris.
Ah ben, vous savez,
bon, je lis les compliments parce que sans ça, j'aurais pas le temps. Bravo à Martin Pelletier pour son plateau brillant et inattendu. C'est un beau cadeau de Noël. Merci pour cette émission sympathique et pétillante. On n'en peut plus d'écouter les ronchons. Beaucoup d'esprit et d'humour dans votre émission. Bravo. Alors... Un auditeur, bravo d'avoir invité Geneviève Dorman qui ne vient pas assez souvent à Radio Courtoisie. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Signé un vieil admirateur. Une dame. Bon, je commence à comprendre pourquoi le grand psychologue Gérard Muliez ne peut pas supporter Geneviève Dorman. Les voix que nous entendons ce soir sont très sympathiques.
Alors, je t'ai plus dit.
Vive l'hypoglycémie et le manque provisoire d'amour qui vous font écrire, je crois. Un grand bravo à Madame Delarue pour son livre que j'ai trouvé au début de l'été, Dans une grande surface.
Ah, c'est à noter.
Et redites-nous donc la référence du livre,
oui,
c'est les éditions Grancher, et puis le prix aussi.
Alors, donc ça s'appelle Les aventures de Langue de Blois, c'est publié chez Jacques Grancher.
L'adresse,
c'est 98 rue de Vaugirard, dans le 6e, si je ne me trompe, et le prix c'est 99 francs.
Voilà, donc 99 francs aux éditions Grancher. Répétez.
98 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement.
Et on peut le commander par son libraire.
Voilà.
Oui, ça aussi, il faut le dire.
Oui. En principe, il n'a pas le droit de refuser. Je sais que certains, même des grands, refusent. Mais bon.
Puis, tant mieux.
Mais les petits ne refuseront pas, précisément.
Voilà. Ça leur fera
tort
le nez.
Il y a beaucoup de bons petits libraires en France.
C'est très bien.
Puis nos auditeurs doivent avoir de bons libraires.
Voilà. Sympathique. Madame Dorman a autant d'esprit que Serge de Beketch et Alain Sanders réunis. Il faut demander à Jean Ferré de lui confier un libre journal.
Oui, mais
avant Marc, Madame Dorman.
Fainéante comme elle l'est,
c'est pas mon métier.
Même si.
Et une auditrice suggère que pour se remonter le moral, faisons du point de croix.
Ouais, c'est vrai.
Ah, c'est oui, on n'a pas parlé point de croix. Hein, voilà, on n'a pas parlé, on n'en parlera pas.
C'est pas Noël, ça.
C'est pas Noël.
Non. On en parlera pour la passion.
Qu'est-ce que c'est ? Alors.
Et alors.
Oui.
De la part de la mère agitée, chez moi il n'y a pas de céréales ni de nourriture de constipé, c'est de la bonne cuisine avec viande et légumes bien préparés, qu'on se le dise.
C'est
Madame
vrai.
Dorman sera la bienvenue, la mère agitée, 21 rue Campagne Première, téléphone 43 35 56 64.
Bah oui, bah ça,
c'est vrai. On connaît,
ira,
c'est
on
une bonne
voir.
Maison.
Oui.
Bon, et la serre n'a pas envoyé sa publicité, non ?
Et je crois que la mère agitée a encore des places pour le réveillon 1999. Alors 19. Dépêchez-vous.
Bon, oui, on a encore 4 ans, ça va. Alors, est-ce qu'il est temps de faire les annonces légales?
Mais attendez. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de dire les trucs? Vous voulez vraiment pas dire, là, si. Les trois... Non, l'histoire alors... des trois jours. Jérusalem, la sépulture, non, je ne suis pas...